Panorama des régions. Panorama des régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.
Bien le bonjour chez vous, amis de Radio de la Paix. Une fois de plus, soyez les bienvenus à Panorama des Régions, votre rendez-vous hebdomadaire qui fait le point de l'actualité de nos belles régions ivoiriennes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse la Côte d'Ivoire, un événement auquel se préparent la plupart des parents. Il s'agit bien sûr de la rentrée scolaire. Ce sera dans quelques instants. Ensuite, nous nous intéresserons à un atelier de formation de jeunes leaders sur l'utilisation saine du numérique. Enfin, un regard sur l'environnement. Nous ferons une incursion au sein du meilleur parc de l'Afrique de l'Ouest, le parc national de Taï, c'est ici, en Côte d'Ivoire. Allez, comme annoncé en sommaire, partons dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour retrouver Stéphane Adams. Avec lui, nous parlons des préparatifs de la rentrée scolaire dans la région du Tonkoui.
Radio de la Paix. Reportage.
Marquons un arrêt au quartier central de la ville de Mans. Ici, l'on observe une forte présence humaine. Ce quartier situé aux alentours du grand marché de la dite ville, un coin encombré par de nombreux commerçants en possession de diverses marchandises, répondant aux attentes des parents d'élèves pour une bonne rentrée des classes de leurs enfants. C'est ici que Traoré Moussa, assis sur un banc, vend ses articles. Il est dans l'attente de la clientèle.
Actuellement, là, il n'y a pas de mouvement. J'ai reçu au moins 3 personnes pour les prix. Ils sont venus se renseigner. Je leur ai donné les prix. Donc, j'attends leur retour.
Pour Traoré Moussa, ce manque d'affluence s'explique du fait du changement de manuel scolaire chaque année qui ne permet pas aux parents d'élèves d'anticiper l'achat des fournitures.
Les livres, là, chaque année, il y a des éditions qui sortent. Actuellement, il y a des parents qui viennent, ils veulent qu'on donne les prix des livres. Mais moi, personnellement, je les explique. Je leur donne un peu les détails. En leur disant que non, ils n'ont qu'à essayer de voir dans les écoles d'abord les éditions que les professeurs vont donner. Là, comme ça, moi, je sais comment il faut les servir.
Radio de la Paix.
Reportage. Stéphane Adams, bonjour.
Bonjour, Mel Emmanuel.
Comment est-ce que le Tonkoui va?
Le Tonkoui se porte bien. Seulement la population a les pieds dans l'eau.
Ah oui?
Compte tenu de la saison pluvieuse qui bat son plein.
En ce moment, dans le Tonkoui?
Oui, bien sûr. Il pleut énormément dans le Tonkoui.
Ah, ici à Abidjan, le soleil a refait surface.
C'est une bénédiction pour vous.
Nous sommes aussi en plein dans la période de la rentrée scolaire. Votre dossier dont nous venons d'écouter un extrait touche beaucoup d'aspects. D'abord, les commerçants de fournitures scolaires. Normalement, la saison de la rentrée, c'est une période de moisson pour eux. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Arrive-t-il à rentabiliser?
Enfin, concernant la rentrée scolaire 2024-2025, surtout les commerçants, il faut dire que cette frange de la population est dans une souffrance avancée, hein, parce que pratiquement, le marché... Il y a, je pourrais dire, la fourniture scolaire sur le marché, mais la clientèle, pas du tout. On ne sait pas pourquoi. D'après beaucoup d'explications que j'ai eues avec ces commerçants, beaucoup me disent bon, que les clients préfèrent venir vers la fin du mois pour pouvoir s'approvisionner compte tenu du fait que bon, ces familles n'ont pas de moyens. Les moyens financiers font vraiment défaut à leur niveau. Voilà, de façon plus simple, ce qu'on peut expliquer. Ce manque d'affluence au niveau de la commercialisation des fournitures scolaires aujourd'hui et sur les étals des commerçants du Mans.
Mais à côté de ces commerçants, il y a aussi les tailleurs. Généralement, c'est là où on fait les réserves pour les coutures de tenues scolaires. Est-ce que ceux-ci aussi, ils sont occupés en ce moment ou c'est vraiment la disette chez tout le monde?
Justement, c'est le constat. Hein, avec les tailleurs, les couturiers, ils se plaignent aussi de la même manière. Parce qu'ils disent que ils ne voient pas assez de parents d'élèves devant leur atelier pour pouvoir faire la confection des tenues de leurs enfants. Eux-mêmes, ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qui se passe? Bon, chacun fait à sa manière. Chacun essaye de se défendre à sa manière pour pouvoir préparer la rentrée scolaire. Il faut dire que cette année, c'est vraiment dur. Et surtout qu'en Mans, actuellement, il pleut énormément. Ce qui fait que la population même ne sort pas de chez elle pour pouvoir vaguer à ses occupations. C'est très, très difficile. Ou circuler à Mans actuellement.
En plus de la pluviométrie qui a grimpé en ce moment à Mans, il y a aussi peut-être des causes financières. Les parents ne sont pas peut-être assez outillés financièrement pour pouvoir rentrer dans la période de la rentrée scolaire, si on peut le dire.
Oui, justement. J'ai eu le temps de circuler un peu partout, un peu dans les différents marchés de Mans. Et surtout, sont plus proches de ces parents d'élèves-là. Les gens parlent beaucoup plus de la pauvreté. Ça, il faut pas se gagner. Ils n'ont pas les moyens, ils ne savent pas comment mettre leurs enfants à l'école. Et même dans les éléments, presque tout le reportage a été réalisé sous la pluie. Hein. Et si vous allez beaucoup constater, il y a quand même par moment la qualité sonore qui fait défaut. Et c'est en fonction de tout ça. Et je me suis rendu compte que c'est devenu dur pour la famille. C'est pas les familles, c'est dur pour la famille aujourd'hui de pouvoir avoir de l'argent pour mettre leurs enfants à l'école. Mais chacun a cette volonté de vouloir mettre son enfant à l'école, mais les moyens financiers font défaut. Ça, il faut pas se cacher.
Vous avez aussi été à Biankouma. Est-ce le même constat?
À Biankouma, c'est presque le même constat. Hein. J'ai eu cette chance de circuler un peu dans plusieurs villages. J'ai eu le temps de voir à Dingouin et à Mangouin, Irongouin. C'est le constat. Mais là, j'ai eu cette chance de tomber sur un enseignant, pour ne pas dire l'école, du groupe scolaire de Mangouin, Mangouin 1, avec qui j'ai eu le temps d'échanger énormément sur la rentrée scolaire. Et il a été clair avec moi. Ça, il faut le dire. Il m'a dit qu'il n'y a pas de motivation parce que, pour le moment, les parents ont tenu d'abord des travaux champêtres. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et les moyens financiers font défaut. Deuxièmement, à leur niveau, ce qu'ils constatent beaucoup, c'est que les parents ne sont pas motivés pour amener leurs enfants à l'école en pareille situation. Et même souvent, ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Mais comme ils sont dans les villages, ils sont obligés de faire souvent de porte en porte pour sensibiliser les parents à envoyer leurs enfants à l'école.
Plutôt que les parents fassent mouvement vers les écoles, ce sont même les écoles, on va dire littéralement, qui font mouvement vers leurs parents pour leur demander d'emmener leurs enfants.
Oui, c'est ce que le COGEF même essaie de temps à autre de le faire. Et même les enseignants eux-mêmes, hein, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils sont là, bon, les gens sont là tranquillement à l'école. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas pourquoi la rentrée est vraiment morose, quoi, en quelque sorte.
Avant, je veux parler des années scolaires antérieures. Est-ce que c'était pareil?
Justement, c'est ce qu'ils ont soulevé. Ils se disent que l'année passée, les années antérieures, les choses bougeaient. Parce que là, bon, peut-être compte tenu du fait que le café, le cacao, bon, les produits publiés, les parents ont pu quand même évacuer ça rapidement. Donc, ça allait facilement. Mais actuellement, dans toutes les zones, on n'est pas dit toutes les régions, dans toutes les localités de Mans et du Tompi en réalité, il pleut énormément. Ça, il ne faut pas se cacher. Il pleut énormément. Ce qui empêche les parents de vaguer à leurs occupations quotidiennes. Et ça ralentit toute autre activité à côté. Et ça pèse aussi la rentrée scolaire dans les villages. Voilà le constat que j'ai pu faire de façon générale.
Est-ce que les autorités, face aux différents problèmes de la population, envisagent peut-être faire des dons de kits pour vraiment motiver les parents à l'effet d'aller inscrire leurs enfants à l'école?
Oui, là, je félicite le sous-préfet de Biankouma, M. Kone Chris Richard, qui a entrepris une sorte de sensibilisation et de motivation cette année. Et ça, j'ai eu la chance de tomber sur une distribution des kits scolaires aux élèves, surtout dans le sens de la célébration de l'excellence. Et j'ai vu que ce monsieur est beaucoup dévoué. Il a fait ce qu'il pouvait. Plusieurs élèves de plusieurs villages ont bénéficié de ces kits qu'il a pu obtenir ça et là, de ses partenaires, pour réaliser un peu cette journée d'excellence, la célébration d'une journée d'excellence dans les villages. Voilà comment le corps sous-préfectoral participe à aider les parents à vouloir faciliter la tâche à ceux-ci, inscrire les enfants ou bien reprendre le chemin de l'école.
Merci à vous Stéphane pour cette production qui fait un panorama des réalités vécues de part et d'autre en cette période de rentrée scolaire.
Merci Mel et bonne émission à vous.
Merci beaucoup.
Radio de la Paix. Pour vous et avec vous.
Ce dossier de Stéphane Adams, notre correspondant dans le Tompi, est à écouter et réécouter sur Radio de la Paix 96.0 à Abidjan et ses environs, 91.1 à Mans, 569 sur le bouquet Canal+, et sur notre site internet www.radiodelapaix.ci. Après Stéphane Adams, place maintenant à un entretien avec M. Mathurin CI. Il est le coordonnateur du programme de prévention des IST, VIH, SIDA et autres fléaux en milieu scolaire du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabet. Bonjour Monsieur CI.
Bonjour Monsieur Mel.
Il y a dans le dossier réalisé par notre correspondant dans le Tompi le problème des grossesses en milieu scolaire. Selon une étude du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, de septembre 2023 à mai 2024, pratiquement l'année scolaire écoulée, la région du Tompi a enregistré 408 cas. Ces chiffres sont-ils en hausse ou en baisse par rapport à l'année précédente?
Merci bien Monsieur Mel. Au niveau des grossesses, les chiffres sont en hausse par rapport à l'année précédente. Mais il faut dire qu'au niveau de la direction régionale de Mans, les chiffres sont en baisse. Mais comme le Tonkbi comprend deux directions régionales, au niveau de la direction régionale de Danané, les chiffres sont en hausse. Cela s'explique par le fait que l'activité que nous coordonnons au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation n'est pas mise en œuvre dans la Drena de Danané. Et cette activité, nous la faisons avec l'appui financier et technique de l'UNICEF et de COICA, qui est l'agence coréenne de coopération.
Du coup, quelles actions en ce moment sont menées pour freiner ce fléau dans la région du Tonkbi dans sa généralité ?
Dans sa généralité, nous avons, avec l'accord donc de notre partenaire qui est l'UNICEF, nous avons décidé que cette année, au cours de l'année scolaire 2024-2025, qui commence bientôt, nous allons étendre donc nos activités aux villes de Danané, de Benouin et de Goulaleu. Donc, cette année, donc, nous allons déployer ces activités-là dans ces zones dans le but de réduire les grossesses. Mais les grossesses dont nous parlons ne se prennent pas à l'école. Et aujourd'hui, chaque acteur du système éducatif, quand je parle d'acteur, je veux parler des enseignants, des élèves et même des parents, chacun a sa part de responsabilité dans la croissance donc du chiffre des grossesses en cours de scolarité. Quand je prends le cas des parents, nous qui sommes des parents, nous ne parlons pas de sexualité généralement avec nos enfants. Et c'est la rue qui donne des informations qui sont souvent erronées aux enfants. Et les enfants, comme vous les connaissez, ils aiment essayer. Ils aiment mettre en œuvre ce qu'ils ont vu ou bien entendu. Donc, en voulant essayer, certaines filles qui ne connaissent même pas leur cycle menstruel tombent enceintes. Donc, voilà un peu. Au niveau des élèves eux-mêmes, vous savez que les parents, à la rentrée scolaire, envoient leurs enfants dans les grandes villes où se trouvent les collèges. Et ces parents n'ont pas toujours les moyens pour prendre en charge les enfants qu'ils ont envoyés dans les grandes villes pour aller à l'école. Donc quand l'enfant, ou bien les filles en général, quand elles n'ont pas les moyens, elles se donnent à ceux qui ont la petite monnaie, à savoir les mécaniciens, les chauffeurs de taxi, ces personnes-là qui leur donnent un peu d'argent, qui les aident, et elles ont des rapports sexuels non protégés avec ces personnes. Donc c'est tout ça qui fait que les grossesses aujourd'hui dans ces zones augmentent.
Ces activités que vous menez pour freiner le fléau de grossesse en cours de scolarité, en quoi consistent-elles véritablement? Quel est le contenu de ces différentes activités?
Alors, nous avons comme stratégie l'éducation par les pairs. C'est-à-dire, nous demandons aux chefs des établissements d'identifier au sein de leur établissement respectif des élèves qui ont la capacité de communiquer, qui n'ont pas peur d'échanger avec leurs camarades et qui ont un sens de leadership. Donc ces élèves, une fois que nous avons leur nom, nous les regroupons dans un établissement et nous renforçons leur capacité autour des thèmes que je vais vous donner maintenant.
Allez-y.
La santé sexuelle et reproductive, les méthodes contraceptives, les grossesses précoces, inconvénients, dangers, les IST, le VIH/SIDA, l'hygiène menstruelle, l'hygiène mentale, l'alimentation et l'hygiène, l'alcool, la drogue, la toxicomanie, l'estime de soi, l'entretien des latrines et l'hygiène environnementale. Voici les thèmes autour desquels les élèves échangent avec leurs camarades. En plus des élèves, puisque les élèves sont des enfants, nous avons aussi les encadreurs, c'est-à-dire dans chaque établissement, nous avons un club santé. Et c'est le contenu des activités de club santé que je viens de vous donner tout à l'heure. Et ce club santé, chaque club santé est encadré par soit un enseignant ou bien un éducateur qui oriente les enfants, éducateurs de pair, qui les aide à planifier les activités de causerie éducative ou bien causerie de groupe en direction de leurs camarades. Et dans certains établissements, nous avons aussi recruté certaines femmes qui sont pour la plupart des enseignantes ou bien des éducatrices qui, elles, encadrent de façon spécifique les jeunes filles. Parce que nous nous disons que si la jeune fille a des compétences, et ces compétences vont lui permettre donc de résister à certaines propositions qui vont les amener à avoir des rapports sexuels non protégés. Donc ces jeunes dames, on les appelle les lady coach, c'est-à-dire elles sont chargées de coacher les jeunes filles. Et les jeunes filles coachées aussi à leur tour vont sensibiliser leurs camarades filles. Parce que si la fille n'accepte pas d'aller avec un garçon, elle ne peut pas tomber enceinte. Donc nous donnons des arguments à ces filles-là afin qu'elles résistent aux propositions qui leur sont faites par les garçons.
Et en termes de résultats, est-ce qu'ils sont palpables? Est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, qui peuvent attester de l'efficacité de vos stratégies sur le terrain?
Oui, nous avons des chiffres. Nous venons même de faire notre atelier bilan à Yamoussoukro. Parce que nous intervenons, pour que je vous le précise, nous intervenons dans plusieurs régions. Nous sommes au nord, dans les trois régions du nord, c'est-à-dire le Poro, la Bagoué et le Tchoulougo. Nous intervenons aussi dans la zone de la Nawa. Et nous sommes à Touba, au Diéné, à Man et dans certaines communes d'Abidjan. Donc cette année, nous avons pu sensibiliser près de 898 élèves. Et nous avons travaillé, nous avons sensibilisé aussi 7200 parents. Nous avons un programme qui est spécifique aussi aux parents. Parce que nous donnons aux parents des informations qui vont leur permettre, donc des compétences qui leur permettent de discuter des problèmes liés à la socialité avec leurs enfants à la maison.
Est-ce que vous voyez ? Oui. Pour revenir à la région du Tonkpi, est-ce qu'à l'avenir, d'autres actions de ce type sont prévues pour un renforcement de la sensibilisation à l'effet de lutter efficacement contre le fléau des grossesses en cours de scolarité ?
Oui, notre objectif, c'est d'étendre nos activités à l'ensemble des lycées et collèges, même aux écoles primaires de toute la Côte d'Ivoire. Mais compte tenu des moyens, parce que quand tu fais des sessions de renforcement des capacités, il faut avoir les moyens. Donc comme nous n'avons pas assez de moyens, nous sollicitons toujours les partenaires techniques qui nous aident à faire. Donc sinon, notre objectif, c'est d'étendre ces activités-là à toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Parce que pour nous, que l'enfant soit à l'ouest, au nord, au centre, c'est un petit Ivoirien et c'est un cadre de demain. Donc il faut lui donner des informations qui vont lui permettre donc, d'être en bonne santé afin d'être assidu à l'école. Parce que quand un enfant est malade, il perd des cours. Et à la fin de l'année, les épreuves aux différents examens de fin d'année sont données. On ne tient pas compte de celui qui était absent ou bien de celui qui était malade. On donne les épreuves pour tout le monde. Donc si l'enfant est en bonne santé, il sera régulièrement à l'école et il sera exposé au programme développé par les enseignants. Donc pour nous, il faut que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient en zone rurale ou en zone urbaine, soient exposés aux informations que nous donnons. Cette année, on avait voulu étendre les activités à toutes les écoles du Tonkpi. Mais compte tenu du manque de moyens, nous sommes obligés de nous limiter là où le partenaire accepte de nous accompagner. Nous avons un projet donc de rencontrer les autorités politiques administratives du Tonkpi afin de voir comment ils pourraient nous accompagner dans ce que nous faisons en direction de leurs enfants.
Et ces campagnes de sensibilisation, dans quelle période se tiennent-elles généralement ?
Nous allons démarrer cette année à partir du mois d'octobre parce qu'on attend que tous les élèves soient en place et nous menons ces activités d'octobre jusqu'au mois de mai. Parce qu'à partir de la fin du mois de mai, c'est là que les examens commencent. Donc nous commençons d'octobre jusqu'en mai.
Donc c'est sur toute l'année scolaire.
Toute l'année scolaire, oui. Sur toute l'année scolaire.
Enfin, quel message à l'endroit de tous les acteurs du système éducatif, c'est-à-dire élèves, parents, enseignants, pour leur implication dans la lutte contre le problème des grossesses en cours de scolarité ?
Merci bien, M. Mel. D'abord, à l'endroit des autorités éducatives, je voudrais leur demander d'insérer, c'est-à-dire je m'adresse maintenant au chef d'établissement, d'insérer dans l'emploi du temps de chaque classe une heure dédiée aux activités de sensibilisation sur les grossesses. Parce que dans chaque école, nous avons un encadreur, nous avons des éducateurs de paix. Ils peuvent mettre cette heure-là à profit pour mener des activités de sensibilisation. Ça, c'est au niveau, donc, des chefs d'établissement. Ensuite, au niveau des parents, nous leur disons que l'avenir de leurs enfants dépend d'abord d'eux-mêmes. Il faut que le parent donne à l'enfant des informations justes et qu'il donne à l'enfant des valeurs. Par exemple, pour nous, un enfant ne fait pas d'enfant. Quand tu es enfant là, tu ne dois pas faire enfant. Donc, pour ne pas faire des enfants, l'enfant ne doit pas avoir des rapports sexuels. Maintenant, s'il veut avoir des rapports sexuels, il faut que ces rapports sexuels-là soient protégés. Que les parents aussi mettent à disposition de leurs enfants le minimum pour que l'enfant puisse être capable d'être régulier à l'école. Ça, c'est au niveau des parents. Au niveau des autorités maintenant éducatives, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, que ces activités-là soient accompagnées par l'État de Côte d'Ivoire. Comme on accompagne aussi le programme qui se fait en classe, il faut que les activités extrascolaires qui donnent aux enfants des compétences, parce qu'en classe, on donne à l'enfant des connaissances. Mais ici, nous donnons à l'enfant des compétences. Et ce sont ces compétences-là qui feront de l'enfant un adulte responsable demain. Mais il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire songe à accompagner aussi ces activités de sensibilisation qui se mènent en direction des élèves qui seront les cadres de demain.
Et aux élèves qui sont touchés directement
voilà.
Par le fléau.
Aux élèves, nous leur disons qu'ils sont encore enfants. Pour éviter les grossesses, chez nous, on dit quand tu ne fais rien, tu n'as rien. Donc, nous disons aux élèves, qu'ils soient filles ou garçons, de s'abstenir de rapports sexuels, de pratiquer l'abstinence. Mais aujourd'hui, c'est rare de trouver des garçons ou bien des filles vierges. Donc, ceux qui ne peuvent pas s'abstenir, nous leur disons donc d'utiliser les méthodes contraceptives. Le garçon peut utiliser les préservatifs et bien utiliser le préservatif. Les filles peuvent se mettre sous les méthodes contraceptives afin qu'elles évitent de tomber enceintes. Voilà ce que nous pouvons dire, et qu'un enfant ne fait pas d'enfant. Un enfant, il est fait pour aller à l'école, réussir et devenir quelqu'un demain, pour participer donc au développement de notre pays que nous aimons tous, qui est la Côte d'Ivoire.
Monsieur Mathurin Seyi, je vous remercie.
Merci bien, Monsieur Mel, et à bientôt.
À bientôt. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du programme de prévention des IST, VIH, SIDA et autres fléaux en milieu scolaire du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est bien cela?
Exactement. Je vous remercie infiniment.
Radio de la Paix, la voix de la diversité.
Nous étions à l'ouest de la Côte d'Ivoire et maintenant c'est le centre qui nous accueille. Nous sommes dans le district autonome de Yamoussoukro et ici nous parlerons de formation, précisément de renforcement de capacités avec les jeunes leaders de la place. C'était à l'initiative de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH. Compte rendu, Emiliao.
Initié par l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme dans le souci d'atténuer les effets de la désinformation en ligne en Côte d'Ivoire, le projet Lien prévoit de nombreuses activités selon sa coordonnatrice Athéna Yapi.
Le projet Lien, projet de lutte pour l'intégrité de l'information en période électorale dans l'espace numérique en Côte d'Ivoire, est un projet qui présente plusieurs articulations allant de la formation des jeunes leaders communautaires à la sensibilisation à la fois sur les radios de proximité, mais également une sensibilisation digitale pour avoir une plus grande portée. Ce projet vise à contribuer à réduire la désinformation en ligne et les violences et autres invectives à l'égard des femmes engagées en politique.
Ce projet qui a vu le jour en 2020 est parti d'un constat, explique sa coordonnatrice.
On l'a constaté en 2020 lors des élections présidentielles que le contenu de désinformation et autres rumeurs ont contribué à exacerber les violences. C'est ce qui nous a motivés à initier ce projet pour permettre un écosystème en ligne fiable nous permettant de participer à la construction démocratique de notre pays.
C'est d'ailleurs l'enjeu principal de la journée de formation des jeunes leaders communautaires sur la saine utilisation du numérique. Brahima Togola, président du Conseil national des jeunes du district autonome de Yamoussoukro.
Nous espérons qu'à la sortie de cette formation, tous les jeunes leaders politiques comme apolitiques pourront relayer ces informations dans leurs différents canaux.
Notons que 100 jeunes leaders des localités de Yamoussoukro et Divo constitue la cible de cette formation. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Bonjour Émile.
Bonjour Mel.
Comment va la vie à Yamoussoukro?
Ben, à Yamoussoukro, il fait bon vivre. Hein. Il faut savoir que Yamoussoukro, quand même, c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, avec sa basilique, tout va bien à Yamoussoukro. En tout cas, il fait bon vivre.
Un atelier de formation pour amener les jeunes leaders à une saine utilisation du numérique. Vous avez privilégié la concision dans votre compte-rendu, mais est-ce que vous pouvez revenir maintenant en long et en large sur cette activité?
Oui, il faut dire que cette activité a eu lieu récemment à Yamoussoukro, l'initiative donc de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, l'OIDH, qui, au-delà des constats faits hein, depuis 2020 par rapport à l'utilisation du numérique, a décidé donc de former une centaine de jeunes des localités de Divo et de Yamoussoukro à une saine utilisation donc du numérique. C'est en cela que donc cet atelier donc de renforcement des capacités a eu lieu ici donc à Yamoussoukro à l'initiative donc d'une cinquantaine de jeunes. Et qui, donc, au-delà de tout ce qui a été donné comme information, comme connaissance, devait pouvoir amener les autres jeunes à une meilleure utilisation, donc, du numérique. Et donc, pour l'OIDH, il s'agit, donc, ici d'atténuer les effets de la désinformation en ligne en Côte d'Ivoire et surtout en période électorale. En période électorale, parce que depuis 2020, comme je le disais tantôt, cette structure, donc, a fait le constat que beaucoup d'informations erronées, donc, sont parties des réseaux sociaux et donc ce qui a engendré les nombreux conflits communautaires qu'on a connus ça et là.
Dans les détails, sinon dans le contenu, à quoi exactement les jeunes leaders qui ont participé à la formation ont-ils eu droit?
Bon, ils ont eu droit à un certain nombre donc d'informations relatives donc à comment décrypter les fausses informations, les fake news sur les réseaux sociaux, et quand et comment il faut publier une information qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, comment il faut donc vérifier ces informations pour s'assurer effectivement de l'effectivité donc de cette information avant de la publier au risque donc de s'exposer à la loi. Depuis donc 2020, dans le souci d'atténuer donc les effets de la désinformation en Côte d'Ivoire, l'OIDH donc a initié ce programme de lutte pour la désinformation en ligne qu'on a appelé le projet Lien, et surtout en période électorale, et les violences en ligne à l'égard des femmes engagées en politique. Et donc à cet effet, plusieurs activités au nombre desquelles des forums régionaux ont été exécutés dans les villes de Daoukro, Gagnoua, Divo, en vue donc d'accroître la capacité de résilience des populations aux manipulations de l'information en ligne, leur octroyant les outils de contre-désinformation. Et donc c'est un ensemble donc d'informations qui a été donc donné à ces jeunes-là pour leur permettre donc de décrypter le faux du vrai et donc sensibiliser aussi leurs camarades de sorte que ce qu'on a vécu en 2020 ne puisse plus arriver en Côte d'Ivoire.
Et les activités du genre, est-ce qu'il y en a souvent dans la zone où vous êtes actuellement en activité?
Oui, bien sûr. Il faut dire que nous sommes dans une vaste zone, le district de Yamoussoukro, la région du Bélier, la région donc d'Unzi, et même au-delà jusqu'à dans le Moronou. Donc c'est une vaste zone que nous couvrons. Donc il y a pas mal d'activités de ce genre-là qui se déroulent un peu partout, surtout quand on a quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Quand on sait que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a toujours été source de conflits ou de violences, et donc pour les structures telles que l'OIDH et bien d'autres structures encore travaillent à apaiser les esprits, à travailler à donc préparer les esprits des populations, de sorte que les violences qu'on a connues il y a quelques années ne puissent plus revenir. Et donc, c'est beaucoup de choses qui se font à la fois, et c'est les jeunes de Yamoussoukro donc qui ont eu droit à cette formation dont on en a mentionné tout à l'heure.
D'accord, Émile, merci beaucoup pour votre participation à Panorama des Régions.
Je vous en prie, Mel, et merci beaucoup.
En ligne avec Émile Yao, notre correspondant à Yamoussoukro, nous étions. À sa suite, nous recevons toujours au téléphone Brahima Togola, président du Conseil national des jeunes du district autonome de Yamoussoukro. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais super bien. Et vous?
Oui, je vais bien, merci. Alors, vous faites partie des jeunes leaders ayant participé à la formation sur la saine utilisation du numérique. Déjà, pouvez-vous revenir sur ce que vous avez acquis au cours de cette formation?
Déjà, nous disons aussi merci à l'OIDH qui a bien voulu renforcer les capacités des jeunes du district autonome de Yamoussoukro qui concerne l'utilisation saine des réseaux sociaux. Il faut dire que c'est un projet qui vient à point nommé au niveau de Yamoussoukro parce que nous nous souvenons en 2020, les jeunes ont pris une part très active à ce qui s'est passé et cette fois-ci, à l'orée des élections présidentielles de 2025, nous avons fait cette formation pour mieux nous préparer à l'effet d'être des citoyens accomplis dans notre utilisation des réseaux sociaux. Donc ce renforcement des capacités, c'était en un mot pour contribuer à réduire l'impact de la désinformation pendant le processus électoral en Côte d'Ivoire. De manière plus spécifique, c'était de renforcer nos capacités au niveau local ici sur la citoyenneté numérique et puis les menaces à l'intégrité de l'information. Voilà, nous avons appris.
Et aujourd'hui, ces acquis, quel impact ont-ils eu sur votre utilisation quotidienne du numérique?
D'abord, les réseaux sociaux, nous savons qu'on doit les utiliser à bon escient, mais on peut les utiliser aussi à mauvais escient. Nous savons aujourd'hui qu'il ne faut pas utiliser une image ou bien il ne faut pas utiliser un message, il ne faut pas partager comme on a l'habitude de le faire sans vérifier l'information reçue. Il faut d'abord vérifier toutes les informations qui parviennent à notre niveau, vérifier ces informations avant de les partager, avant de communiquer même si ces informations reçues sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est un acquis parce qu'avant, quand on voit un utilisateur faire un post sans réfléchir, si le post nous plaît, on partageait, on diffusait ces informations sans grande information sur l'information. Donc aujourd'hui, nous sommes à même de pouvoir les vérifier pour voir si les photos même qui ont été utilisées sont des vraies photos. Si les vidéos qui ont été utilisées sont des vidéos qui sont réelles avant de les partager ou avant de communiquer dessus. Parce qu'il faut le dire, les images, à un moment, on utilise des images de certains pays. On prend comme image d'illustration pour certains événements qui se passent dans notre propre pays. Donc vous voyez que souvent même les images qu'on prend pour illustrer certaines activités au niveau local ici ne sont pas réelles. Donc la formation nous a permis de pouvoir rechercher, voir si des images sont des images réelles, si elles ne sont pas réelles, ce sont des fake news au fait. Voilà.
Vous avez parlé de capacité aujourd'hui de vérifier des images. Donc ça veut dire que vous avez reçu ou bien vous avez été formé sur l'utilisation de certains outils. Quels sont ces outils-là, si vous pouvez nous partager cette connaissance?
Il y a plusieurs outils. Avec Google Images, on peut vérifier les différentes images qu'on reçoit. Pour un exemple palpable, on peut voir l'image qui a été prise dans le cadre d'une activité. Cette image, quand nous la prenons, on la télécharge et on part au niveau de Google Images, on essaie de faire la recherche par image. Et à partir de là, si cette image avait été utilisée pour d'autres activités, même les pays, les lieux, les différentes dates d'utilisation de ces images-là vont s'afficher. Et ça nous permet à nous-mêmes de faire notre analyse et de voir que ces images-là ne sont pas véritablement les images réelles de l'activité qui est en cours ou bien qui a daté encore. Voici un peu ce qu'on a pu voir. Je peux donner le nom de Google Photo qu'on a utilisé.
Avec l'outil Google Images, comme vous l'avez dit, vous avez la possibilité de vérifier avec toutes les références.
Voilà, il y a plein de sites aussi de vérification. Comme nous sommes à une émission, on ne va pas tout citer, mais je donne cet exemple de Google Images déjà.
D'accord.
Il faut dire que cette formation est venue nous renforcer quant à l'utilisation de ces réseaux sociaux, comment vérifier les images que nous avons à notre disposition, comment vérifier les vidéos que nous avons à notre disposition, comment vérifier toutes les informations qui viennent à nous à travers les réseaux sociaux avant même de les diffuser.
En tant que président du Conseil national de la jeunesse du district autonome de Yamoussoukro, est-ce que vous envisagez transmettre ce que vous avez acquis aux membres de votre association, voire à la jeunesse du district autonome? Si oui, comment comptez-vous y arriver?
Il faut noter que cette activité a enregistré la participation des leaders d'opinion des différentes organisations de la société civile. À titre de rappel, le Conseil national des jeunes, c'est la septième des mouvements, organisations, ONG de jeunesse, qu'elles soient politiques ou apolitiques. Donc, nous avons eu à cette activité la présence des jeunesses politiques, les premiers responsables, c'est-à-dire les présidents de ces organisations, du PDCI, du PPACI, du RHDP, qui est présent. Et puis, au titre des organisations de la société civile, nous avons enregistré la participation de la jeunesse communale, du Sénat des jeunes, du Parlement des jeunes, du Forum des jeunes de Yamoussoukro, de l'AMC, de la GEC. Vraiment, il y avait pas mal d'organisations de jeunesse qui ont préparé cette activité. La liste est longue. Ces jeunes, déjà en leur sein, ont promis faire la restitution de cette formation. Former les leaders des jeunes qui sont membres de leurs différentes organisations d'origine et former à l'utilisation saine des réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est une première phase. Les organisateurs nous ont promis qu'ils reviendront. C'est un projet à la phase de suivi et évaluation pour voir effectivement ce qui sera fait sur le terrain. Donc, c'est ce qu'on peut dire.
Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la jeunesse quant à l'utilisation saine du numérique en Côte d'Ivoire?
Je lance ce message à l'endroit de tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays. Donc la Côte d'Ivoire sera ce que sa jeunesse voudra. Nous sommes à l'orée des élections présidentielles de 2025. Il est important que chaque jeune Ivoirien comprenne que le devenir de notre pays, qui repose sur sa jeunesse, est dans notre main. Et que dans notre manière de faire, on puisse agir autrement. Et agir autrement, c'est à tous les niveaux, notamment au niveau des réseaux sociaux. Avant, notre manière d'agir était d'utiliser comme on le voulait les réseaux sociaux. On voyait une information, on la diffusait sans forcément vérifier. Nous demandons aux jeunes de Côte d'Ivoire de faire en sorte, dans notre utilisation des réseaux sociaux, de faire en sorte de préserver la paix, la cohésion sociale et la réconciliation qui est en marche à travers la création des ministères qui est en charge des questions de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et on est lancé, 2025 ne doit pas être une fin. 2025 doit être au contraire pour nous une chance de pouvoir dire que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont matures, les jeunes sont matures dans l'utilisation des réseaux sociaux et autres. Voilà un peu le message que je veux lancer à l'endroit de mes pères jeunes.
Brahima Togola, je vous remercie.
Merci bien.
Et je rappelle que vous êtes le président du Conseil national des jeunes du district autonome de Yamoussoukro.
C'est exact. Merci bien.
Radio de la paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.
Amorçons le dernier virage de notre émission en posant nos valises dans le Bassa-Sandra. Nous parlons d'environnement avec le meilleur parc de l'Afrique de l'Ouest, le parc national de Taï. Kofi Benson s'y a rendu pour nous produire un dossier. Suivons cet extrait.
Radio de la paix.
Dossier.
Le parc national de Taï, situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, s'étend sur une superficie de 5360 km². Ce parc abrite une diversité extraordinaire d'espèces végétales et animales. Cette forte présence de la faune et de la flore sur cet espace protégé constitue un facteur d'agression par les populations riveraines du parc. Ce dossier de Radio de la Paix vous amène donc à la découverte de ce parc qui, à travers différentes stratégies initiées par l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, est le fleuron des parcs nationaux de Côte d'Ivoire. Présentation Kofi Benson. Le Le parc national de Taï, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, est la plus grande forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest-africaine. Un site qui constitue l'un des rares endroits où l'on peut encore observer des espèces emblématiques telles que les chimpanzés, les éléphants, les buffles, les antilopes et bien d'autres espèces animales. Des espèces dont le nombre est croissant de jour en jour, selon le général Tondosama Adama, directeur général de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves.
L'ensemble des espèces inventoriées en Côte d'Ivoire, en tout cas dans la partie forestière, existe au niveau du parc national des Taï. Ces espèces qui étaient localisées sur certaines parties du parc aujourd'hui sont en train de couvrir l'ensemble du territoire du parc. Ça voudrait dire que le système de gestion qui est en place est bon.
Une bonne gestion qui est par ailleurs le fruit de certains appuis tels que le PIF, le projet d'investissement forestier, visant à la lutte contre le changement climatique. Car en plus de sa richesse en faune et en flore, le parc national de Taï joue un rôle crucial dans la régulation du climat et la préservation des ressources en eau dans la région.
Radio de la Paix. Dossier.
Il est au bout du fil, notre correspondant dans la région du Bas-Sassandra, Kofi Benson, bonjour et bienvenue sur les antennes de la maison.
Bonjour, Maître Emmanuel.
Alors, comment ça va dans le Bas-Sassandra?
Oui, le Bas-Sassandra se porte très bien, et particulièrement à Saint-Pedro où nous nous trouvons.
19 minutes 24 secondes, un dossier riche que nos auditeurs pourront retrouver sur tous nos supports, FM 96 à Abidjan et ses environs, et 106.0 à San Pedro, 569 sur Canal+, et sur notre site internet www.radiodelapaix.ci. Benson, j'ai rappelé le temps de votre dossier sur le parc national de Taï, près de 20 minutes de récit et d'intervention. Combien de temps vous a-t-il fallu pour rassembler toutes ces informations et nous offrir cette production?
Plusieurs mois, parce que l'assemblage de tout ce qu'on a eu comme reportage, comme on a eu comme visite sur le terrain, c'est plusieurs mois de recherche et voilà ce que ça donne.
En incursion dans cette forêt, vous avez vu beaucoup de choses. Nous sommes tout de suite. Parlez-nous du parc national de Taï.
Oui, il faut être dit déjà que le parc national de Taï est la plus grande forêt tropicale primaire sous protection de la zone ouest africaine. Et ce parc est situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire avec une superficie de 5360 km². Un parc qui a été d'abord une réserve de biosphère en 1978 et puis patrimoine mondial en 1982. Le parc de Taï est naturellement géré par l'Office ivoirien des parcs et réserves et sous la direction zone sud-ouest de l'OIPR. Quand on entre dans le parc, on est loin des bruits, loin de la pollution des villes et ça fait du bien, on permet de bien respirer, contrairement à ce que nous voyons en ville, c'est la nature qui s'impose à nous et il faut faire le déplacement. Naturellement, c'est difficile d'avoir accès à ce parc, mais quand on y arrive, on est bien content, on est récompensé par la nature qui nous offre tout. Je me souviens encore lorsque nous avons fait la visite, du haut de mes 1m73, je me suis inséré facilement dans les racines d'un arbre. C'était vraiment fabuleux. C'est beau à voir tout ça. C'est un décor qu'il faut voir. Et puis avec les animaux comme les chimpanzés que nous avons eu la possibilité d'observer à distance, c'est vraiment très beau.
Le parc national de Taï a le mérite d'être le meilleur parc de l'Afrique de l'Ouest.
Le meilleur parc de l'Afrique de l'Ouest, comme l'a signifié le directeur général de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, le général Tondosama Adama. Le parc de Taï aujourd'hui est la crème des crèmes au niveau des parcs de Côte d'Ivoire et puis au niveau de la sous-région. Chaque fois qu'il y a des compétitions où on doit primer, les acteurs du parc national de Taï sont les premiers parce que ils font du très bon boulot. Au départ, c'était pas facile parce que vous savez, quand on a un parc qui nous produit toutes sortes d'arbres ou d'animaux, on est tenté de se servir, de s'approvisionner tout juste à côté et c'était pas facile au départ. Aujourd'hui, je pense que le message est bien perçu par les populations vivant à la périphérie du parc national de Taï avec de nombreuses sensibilisations parce qu'il faut prendre conscience que ce parc nous donne beaucoup et quand on a pris conscience, on est apte à mieux préserver ce joyau-là.
C'est aussi un atout touristique considérable pour la Côte d'Ivoire parce que je suppose qu'il n'y a pas que des gens du Bas-Sassandra ou que des Ivoiriens qui s'y rendent.
Oui, déjà, c'est un atout touristique dans la mesure où c'est un patrimoine mondial. Le parc appartient, certes, à la Côte d'Ivoire, mais le parc permet au monde de bénéficier de ses bienfaits. Donc, c'est un atout touristique à travers le mot, j'ai du mal à prononcer, mais je crois que j'y arrive, Nienokwe. Voilà, Nienokwe qui fait 396 mètres de hauteur. Je vous assure que quand on arrive à cette hauteur-là, on voit un décor éblouissant du parc, une verdure sans pareil, et c'est vraiment très beau. Mais il faut le dire, hein, c'est pas facile de faire le chemin. L'escalade peut faire 1h30 à 2h de route, et c'est pas vraiment facile. À côté du mont Nienokwe, il y a également la rivière Anna. La rivière Anna qui serpente le parc de Taï et qui permet naturellement aux animaux vivants dans ce parc de pouvoir s'abreuver à n'importe quel moment. Et également, s'il faut découvrir le parc, il faudrait qu'on puisse avoir un site pour ne serait-ce que se reposer. Et il y a Ecotel Touako également, qui est situé à l'orée du parc, dans la localité de Djuroutou. Cet espace-là a pratiquement 10 bungalows qui peuvent recevoir les visiteurs qui viendront naturellement visiter le parc national de Taï. Et puis, autre élément, c'est le lac de Bio, qui s'étend à l'intérieur des limites de la réserve sur 8000 hectares. Et ce site est un excellent point d'observation pour les oiseaux aquatiques et migrateurs. Ce qui est très important à souligner, c'est que les chimpanzés du parc national de Taï manipulent plus de 26 outils et sont particulièrement connus pour le cassage des noisettes. Et ça, c'est vraiment très beau pour les visiteurs. Pour ceux qui aimeraient bien voir ces chimpanzés, pourront faire le déplacement. Et c'est très, très, très beau à voir. Notons que le parc national de Taï a un élément important pour les populations vivant à la périphérie. Aujourd'hui, avec les différentes actions de préservation du parc, les habitants vivant à la périphérie ont la possibilité de faire leur rituel, c'est-à-dire ils ont pu préserver un arbre ou, je crois, la montagne de Nienokwe qui permet aux populations, à des périodes bien déterminées, d'aller faire leur rituel et une montagne sacrée qui est adorée chaque année par le peuple Patokula, ouais, qui est situé à Djuroutou. Ça permet de non seulement préserver le site, mais ça permet au plan culturel, aux populations, de profiter d'un rituel et c'est au bénéfice de tout le monde. Vous allez certainement me dire quelle est la contribution des populations pour la préservation de ce parc.
Tout à fait, tout à fait.
La contribution est toute simple. Au départ, les populations sont tentées de s'approvisionner dans le parc, mais avec les sensibilisations, cette population a compris qu'il faut désormais préserver ce parc parce que le parc nous permet beaucoup plus de choses que ce qu'on peut avoir peut-être en un jour. À travers le parc, il y a une pluviométrie bien assurée pour, je dirais, une bonne production du cacao, de l'EVA, du palmier à huile, parce qu'il faut le dire, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, ce sont ces denrées-là qui sont véritablement représentées, particulièrement le cacao, qui a naturellement besoin d'une pluviométrie accentuée, et à travers le parc, le sud-ouest est bien arrosé. Les acteurs de protection ont compris qu'il faut également soutenir cette population. Faut les encourager, les motiver à préserver ce parc à travers le prix vert qui permet aux différentes populations, aux différentes communautés qui participent à la préservation du parc à pouvoir recevoir en retour quelque chose. On donne des prix qui permettent soit de réhabiliter des écoles, de réhabiliter des centres de santé. Et ça permet de vraiment changer la vie des populations.
Vous avez parlé des communautés, justement. Il arrive ou il peut arriver parfois que des espèces protégées par le parc viennent bouleverser leurs champs. Comment réagissent-elles et comment les autorités gèrent-elles les plaintes?
D'abord, le fait que le nombre des espèces augmente et le fait que les animaux sont bien protégés les amène à sortir de leurs limites. Et c'est là que ces animaux se retrouvent dans les champs des populations vivant à la périphérie. Quand c'est les animaux qui sont vraiment destructeurs, comme les éléphants ou les buffles, là, ça pose problème. Et les populations vont signaler auprès des acteurs. Et bon, selon les informations, un comité est mis en place pour recueillir les plaintes, pour permettre de gérer ces plaintes-là au niveau de l'OIPR. C'est clair qu'il y a quelques bruits quelquefois, mais on réussit à gérer la situation pour le bien-être naturellement des animaux du parc national de Taï.
Benson, dans votre dossier sur le parc national de Taï, un aspect médical, le venin de serpent comme remède à certains maux. Comment est-ce possible?
Bon là, vraiment, il faut le dire, le jour de l'entretien, j'étais surpris de savoir qu'il fallait préserver, il fallait protéger les serpents. Parce que moi, j'ai vraiment peur des serpents. Et quand le docteur a dit, non, il faut préserver les serpents, il faut pas les tuer, j'ai dit, ah, ben vraiment, à quel prix? Il faut le reconnaître, à quel prix il faut préserver ces serpents. Mais il faut le dire, il faut protéger ces serpents parce que leur présence dans les champs assure une certaine production au niveau du champ. Mais ça, ce sont les spécialistes. C'est les spécialistes qui feront. Et puis, naturellement, le parc national de Taï ne doit pas être attaqué. Donc, tous ceux qui vont dans le parc de Taï vont pour une bonne raison. Donc, je sais que ces serpents seront bien protégés pour, naturellement, réaliser des vaccins contre beaucoup de maux.
Enfin, Benson, une problématique majeure. L'orpaillage illégal, cela a des conséquences sur la vie, voire la survie des espèces animales et végétales du parc.
Aujourd'hui, les orpailleurs n'ont pas la possibilité d'entrer dans le parc pour agir. Mais les cours d'eau qui sont autour du parc sont attaqués. Quoi qu'on vient laver la terre qu'on récolte dans les cours d'eau. Et lorsque on lave cette terre dans ces cours d'eau, c'est ces mêmes cours d'eau-là que nous utilisons, ou du moins ce que nous buvons après. Naturellement, avec le taux de mercure qu'on va retrouver dans ces cours d'eau, vont agir sur la santé des populations. Donc c'est vraiment une problématique, c'est une préoccupation pour les acteurs de l'OIPR qui souhaiteraient que les autorités compétentes puissent prendre des mesures pour pouvoir arrêter ou freiner ce phénomène-là. C'est pas bien. Comme le directeur de zone l'a dit, le parc pourra bien se porter, mais les populations vivant autour du parc seront malades, tout simplement parce que les cours d'eau sont attaqués. Et ça, c'est bien dommage.
Kofi Benson, notre correspondant dans le Bas-Sassandra, merci pour votre contribution.
Merci, Mère Emmanuel.
Voilà, Panorama des régions aujourd'hui, c'est terminé. Pour produire cette émission, j'ai eu le soutien de nos correspondants en région, Stéphane Adams dans le Tonkpi, Emile Yao à Yamoussoukro et Kofi Benson, avec qui je me suis entretenu il y a quelques instants dans le Bas-Sassandra. Aussi, à la production, le soutien de Djeneba Koulibaly. Merci à nos auditrices et auditeurs, à la prochaine pour un autre Panorama des régions.
Panorama des régions. Panorama des régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.